Bonjour amis auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Et aujourd'hui nous allons parler du vestiaire sacré, les brodeurs et l'église dans le diocèse de Chartres. Et pour aborder ce sujet, j'ai invité dans le studio Hugues Pasquier. Bonjour Hugues Pasquier. Bonjour. Docteur de l'école du Louvre, spécialisé dans les fils métalliques, dans les textiles. Donc c'est votre sujet de prédilection dont on va parler aujourd'hui. Vous étiez chargé de l'inventaire et du récollement à l'écomusée du Perche et récemment, vous étiez l'un des deux commissaires scientifiques de l'exposition sur le vestiaire sacré d'Eure-et-Loir. Exposition organisée de juillet en septembre 2008 au château de Maintenon. Donc nous allons parler des brodeurs, ces artisans qui souvent travaillaient dans l'ombre et les silences des ateliers de fabrication, des couvents ou à domicile, sans que leur nom passe à la postérité, sans accomplir deux fois sans doute le même modèle. Est-ce vrai ?
Peut-être que c'est vrai dans les ateliers donc conventuels, dans les couvents de femmes essentiellement. Ce qui n'est pas vrai pour les brodeurs professionnels. En fait, quand ils avaient un modèle ou qu'ils avaient un grand peintre ou un grand dessinateur qui leur faisait un modèle, ils le brodaient plusieurs fois.
Donc on recopiait certains modèles qui étaient particulièrement exquis et qui trouvaient un grand écho auprès des commanditaires. Qui étaient les commanditaires ?
Alors, les commanditaires, l'Église a eu une grande importance dans le développement la réussite de la corporation des brodeurs, en fait.
Est-ce que l'Église imposait peut-être les sujets, quand même, sur les chasubles et les ornements liturgiques? Est-ce qu'on a préservé des documents ou peut-être les chanoines demandaient certains sujets?
Pas nécessairement, mais enfin, les commandes étaient très
ciblées, on s'adressait à tel brodeur.
Était bien écrite, je veux dire, dans le contrat était indiqué la nature des fils, les couleurs demandées, sur quel support, de telle grandeur, de telle iconographie, ce qu'on voulait. Et on observe des constantes dans les commandes, il y a des choses particulières qu'on retrouve. Donc par exemple sur une chasuble qui était commandée par un chanoine qui s'appelait Martin, très souvent il allait mettre en sujet principal en broderie sur un chaperon la pièce supérieure qui s'attachait sur les épaules, donc dans le dos des prêtres, parce qu'il faut savoir donc qu'on officiait en tournant le dos au peuple, aux fidèles. Donc en fait, on mettait les ornements et les sujets démonstratifs sur le dos des prêtres pour que les gens le voient. Donc on mettait en sujet principal la vie de la Vierge, la vie du Christ, des choses démonstratives, des évangiles. Et puis si le chanoine s'appelait Martin, il mettait sur le devant la vie de Saint-Martin, par exemple. C'est des constantes qu'on retrouve. Alors un chanoine qui s'appelait Zacharie, on a la vie de Zacharie, alors que Zacharie n'est pas très important dans la liturgie chartraine et n'est pas du tout un saint local. Et on a des attestations dans les manuscrits du XVIe siècle, dans les années 1539 par exemple, on a une commande d'un chanoine qui s'appelait Zacharie. Donc il fait broder la vie du Christ et la passion du Christ en sujet principal, et puis sur le devant, les orfrois, on a cinq scènes décrites dans les manuscrits. On ne les conserve plus, les objets, mais
description.
Très précise dans les commandes qui sont conservées aux archives départementales d'Eure-et-Loir, donc de la vie de Zacharie en cinq scènes.
Voilà. Donc on sait qu'il y a des brodeurs professionnels qui eux-mêmes dessinaient parfois les...
Alors on a des brodeurs dessinateurs, ça c'est à partir du XVIIe siècle essentiellement. Au XVIe siècle, on a peut-être moins... des brodeurs qui sont aussi dessinateurs. On observe, en fait, les modèles sont tirés des grands peintres, Raphaël, Michel-Ange, même dans les petites paroisses, on a des réinterprétations, en fait, de tableaux très très connus dans les musées aujourd'hui, de Raphaël, de Michel-Ange, de Van der Bosch, enfin des grands peintres.
Comme dans le vitrail, on va s'inspirer aussi des gravures de
Dürer. Et en fait, si vous voulez, ils ne dessinent pas originalement, si vous voulez. Ils s'inspirent et ils redessinent pour pouvoir broder, puisque un coup d'aiguille n'est pas un coup de pinceau. Donc voilà.
Donc il y avait sans doute aussi une division du travail, un dessinateur, un artiste très doué qui va préparer le carton pour le brodeur.
Alors ça c'était vrai dans les grandes corporations comme à Paris où on avait des centaines et des centaines de brodeurs, où donc on avait des ateliers avec un maître, peut-être deux, trois compagnons et puis les épouses et les filles qui pouvaient dessiner, filer le fil, etc. À Chartres, c'est peut-être moins vrai. Je pense que les brodeurs étaient capables et de dessiner et de broder et de filer une seule et même personne parce que les statuts corporatifs à Chartres n'étaient pas les mêmes qu'à Paris et donc les ateliers étaient plus petits. On n'avait pas quatre compagnons
pour un
maître.
Donc on avait à Chartres plutôt de petits ateliers familiaux et à Paris de grands ateliers qui réunissaient plusieurs brodeurs pour exécuter de très grandes commandes.
Oui, c'est-à-dire que les règles corporatives acceptaient à Paris d'avoir un maître qui avait plusieurs apprentis, ce qui n'était pas vrai à Chartres. Par exemple, on avait maximum deux apprentis dans les règlements chartrains, alors qu'à Paris, il pouvait y avoir jusqu'à quatre apprentis à certaines époques, parce qu'on acceptait que les fils soient apprentis, et ça ne faisait pas partie des comptes d'apprentis de la corporation, alors qu'à Chartres, ce n'était pas vrai.
Voilà. Alors, est-ce que la broderie jouait un très grand rôle dans la fabrication locale à Chartres ?
Alors, on avait une corporation apparemment importante de brodeurs, hein, dès le XVe siècle à Chartres, qui va être surtout importante au XVIe et XVIIe probablement, sauf qu'on a surtout étudié le XVIe siècle parce qu'on conserve beaucoup de manuscrits et de commandes du XVIe siècle. La cathédrale de Chartres, suite aux guerres de religion, les rois de France, les derniers Valois avaient quitté Paris et donc venaient régulièrement en procession, en pèlerinage, écouter les offices à la cathédrale de Chartres. Donc on a beaucoup de documents et on a beaucoup de donations et sur l'époque du XVIe siècle. Donc on sait qu'on avait une corporation de brodeurs importante, peut-être 80 maîtres, ce qui est important. Rien à voir avec Paris, évidemment, autour. Mais je veux dire, par exemple,
ville,
on n'avait aucune corporation de brodeurs attestée, enfin avec des règlements corporatifs. Donc s'il n'y avait pas règlement corporatif dans une région, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de brodeurs, pas assez d'ateliers attestés pour mettre des règles. On ne va pas faire une règle pour trois personnes.
Ah oui, mais vous parliez de 80 personnes.
Alors, à Chartres, il y avait des règlements. Il n'y a aucun problème. Mais par exemple, on sait qu'en Normandie, hein, notre confrère de la conservation départementale de la Manche nous a confirmé que dans la Manche, on n'avait aucune corporation de brodeurs. Hein, entre le XVe et le XVIe siècle, il n'y avait pas assez de brodeurs et que les broderies venaient de la région chartraine, de la région parisienne.
On poursuivra après la pause musicale.
Oh.
Nous revoilà dans le studio de Radio Grand Ciel, chers amis de la radio, avec Hugues Pasquier, docteur de l'école du Louvre. Et je parle avec lui sur le vestiaire sacré d'Eure-et-Loire, les brodeurs et l'église dans le diocèse de Chartres, plus précisément. Et nous étions en train de parler des brodeurs. Il y en avait beaucoup à Chartres, puisqu'on a une corporation importante. Et là, vous vouliez parler des femmes qui, elles aussi, brodaient. Voilà.
Alors donc à partir du début du XVIIe siècle, donc on va avoir après le Concile de Trente et la Contre-Réforme donc beaucoup d'ordres et de couvents qui vont souffrir de femmes, et donc à Chartres on a plusieurs ordres de religieuses qui vont s'installer à partir de 1620 à peu près, hein, sous couvert et protection royale. Hein, Anne d'Autriche était venue à Chartres et avait fait de nombreuses donations et protégé donc ces religieuses qui brodaient énormément, concurremment aux brodeurs professionnels et qui n'avaient pas de règles corporatives. Hein, donc, elles brodaient uniquement à destination du culte, de la liturgie, pour les célébrations religieuses. Alors, y compris elle, et y compris le clergé séculier, hein, le chapitre de Chartres employait, entre guillemets, régulièrement les religieuses des couvents chartrains pour leur faire des ornements.
Alors, que se trouve-t-il réglementé dans les statuts, entre autres, les conditions de travail,
alors,
d'embauche,
tout, c'était très précis. Ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé. Il y avait des contraintes d'âge. On ne pouvait pas prendre un apprenti avant tel âge. Donc c'est souvent 12 ou 13 ans. Hein. Ça peut nous paraître très très jeune aujourd'hui, mais les conditions de vie et la...
Au Moyen-Âge, le garçon était majeur à 14 ans et la fille à 12 ans.
Oui, et on mourait plus jeune aussi. Donc c'était autre. Hein. Les conditions sociales, bon... Et donc, il y avait donc des contraintes d'âge, des contraintes d'horaire de travail. Hein. Il fallait, pour les brodeurs, travailler à la lumière du jour.
Pour respecter les yeux, oui.
Pour respecter les yeux et pour respecter l'ouvrage, quoi, pour avoir...
Les meilleures conditions
d'une bonne exécution. Pour se rendre compte des couleurs, de la précision des points, des jetés d'aiguilles.
Donc on ne travaillait pas à la lumière de la chandelle.
Non, sauf exception. C'est-à-dire que des fois les commandes pour être finies en temps, en heure, le demandaient, et il y avait une dérogation qui était acceptée par les jurés de la corporation. Et sinon, les religieuses, là, on a beaucoup moins d'écrits parce qu'elles n'avaient pas de règles corporatives. Hein. Elles brodaient dans leur couvent uniquement pour l'église. Et là, il n'y avait aucune valeur marchande, rien ne se vendait. Hein,
car le temps aujourd'hui serait trop cher. Si on voulait refaire les broderies du Moyen-Âge ou des époques passées, on n'aurait pas l'argent pour les payer parce que le temps ne comptait pas à l'époque. Il faut peut-être rappeler que pour certaines chasubles ornementées avec des orfrois, avec de la broderie, on mettait plusieurs années à plusieurs personnes.
Plusieurs années. Alors donc un ensemble liturgique
Un ensemble liturgique complet, normal, entre guillemets.
Donc alors on avait trois chapes ou cinq chapes. Donc celle pour l'officiant et puis les co-célébrants. Ensuite on avait une chasuble. Et puis, on avait une tunique et une dalmatique. La tunique pour le sous-diacre et la dalmatique pour le diacre. Même forme, même coupe, même dimension. En fin de compte, le statut de tunique ou dalmatique était donné par celui qui le portait.
Mais le motif restait le même.
On a l'ornement offert par Monsieur de Saint-Afrique donc à la cathédrale de Chartres.
C'est quelle époque ?
Alors, l'époque de donation est le 19e siècle, mais la broderie est 17e siècle. Hein. C'est un modèle de Paul André du Cerceau de la fin du 17e siècle. Hein. Donc, la broderie a été faite selon les règles corporatives des brodeurs.
Je vois justement la photo de ce superbe
et donc,
catalogue.
Je mets quiconque au défi de me dire, entre la tunique et la dalmatique, laquelle est quoi. Les motifs sont les mêmes, au même endroit, aussi bien sur le dos, le devant, les épaules de la dalmatique et de la tunique. Et en fin de compte, on appelait tunique quand elle était sur le dos du sous-diacre et dalmatique quand elle était sur le dos du diacre.
Donc aussi, en fonction des couleurs liturgiques, on devait avoir plusieurs ensembles de vêtements liturgiques.
Oui.
Puisque les
alors, couleurs très changent. Souvent aujourd'hui, on conserve du rouge ou du blanc parce que c'était les couleurs des fêtes. Hein, le blanc, les fêtes mariales, le rouge, les fêtes de Pentecôte, etc. Noël, hein, Noël était en rouge, hein, anciennement. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui. Et donc, on conserve surtout ces ornements parce qu'ils avaient beaucoup de broderies, de fils métalliques. Aujourd'hui, on leur accorde une grande importance, qui était peut-être moins importante anciennement. En fait, c'était un moyen d'accrocher l'œil.
Parce que ces fils métalliques accrochaient la lumière.
Il y avait des jeux de lumière par les cierges, par la transparence des vitraux. La lumière était colorée et mettait en scène un peu les fils. Aujourd'hui, on est peut-être moins versé à ce genre de détails, mais il faut savoir que les arts textiles sont des arts de détail et de répétition. Hein. C'est uniquement des effets visuels et optiques, hein, au final.
Effectivement, on ne pouvait pas concevoir dans une cathédrale très sombre de voir les fils de soie de différentes couleurs. Par contre, l'argent et l'or pouvaient refléter le moindre rayon de lumière.
Alors, grâce au reflet des fils métalliques, on arrivait à mettre en couleur et en lumière le reste de la composition qui était de fils de soie teint, en fait. Donc, c'est vrai que la soie accrochait moins la lumière que le fil métallique, mais par reflet et rémanence de la lumière sur le métal et l'irisation du métal, on éclairait le reste de la composition de fils colorés.
Donc nous allons tout à l'heure parler du fil d'or, qui est votre domaine de prédilection, puisque vous avez fait un travail important là-dessus. Vous êtes spécialisé dans les fils métalliques, dans les textiles. Alors, est-ce que vous pourriez dès maintenant nous dire à quoi ressemble un fil métallique avec lequel on peut broder ?
Alors, soit c'est un fil entièrement de métal, de section plate ou ronde. Donc, ronde, c'est un trait hein, de métal plein. Et une lame, c'est une bande aplatie de métal. Et ensuite, on appelle filet. Donc, c'est la majorité des fils employés, en fait. Un fil de soie. Donc ça, ce n'est pas l'Église qui prescrivait que ce soit de la soie, c'était les règlements corporatifs. Parce que le métal précieux, or et argent, appartenait au roi de France. L'or et l'argent étaient le bien, même un privé qui possédait l'or et l'argent, ça appartenait au roi de France, hein, les consciences. Donc on en faisait parcimonie.
Voilà, on va continuer notre entretien après le Benedictus de la Missa Papae Marcelli de Palestrina.
Thank you.
voilà, à nouveau dans le studio de Radio Grand Ciel avec Hugues Pasquier qui nous parle des fils métalliques dans les textiles. Donc reprenons notre fil d'or en l'occurrence.
Donc les fils pleins de sections rondes, donc les traits, et puis surtout qu'on retrouve davantage utilisés, donc ce qu'on appelle des filets. C'est des termes techniques. Alors un filet, c'est un fil de soie qui est enroulé d'une lame de métal, donc d'une bande aplatie.
Est-ce que c'était un métier de produire ces filets ?
Il y avait des corporations qui faisaient que ça.
On les appelait les fileteurs ?
Non, alors on appelait ça les fileurs.
Les fileurs ?
Les fileurs d'or. Et puis pour faire les lames, on appelait ça les écacheurs. Et le fait d'aplatir, donc c'est dérivé du latin et d'un mot espagnol qui est cacharé, qui veut dire marcher à grands pas, enfin en tapant du pied. Donc le fait qu'on écrasait un fil rond pour le rendre plat et voilà.
On appelle ça des écacheurs. Avec un petit marteau, j'imagine.
Non,
on travaille l'or à Tolède.
On avait des meules en fait qui tournaient et le fil était passé entre deux meules pour les aplatir. Mais très anciennement, on découpait des plaques de métal en fait très finement pour en faire des bandes et ensuite on les enroulait donc sur un fil de soie. Parce que le fait d'être enroulé sur de la soie, sur un fil textile, donnait une plus grande souplesse au métal et faisait qu'on utilisait moins de métal aussi.
Mais est-ce qu'on savait comment on empêchait le métal de s'oxyder ? Parce que même l'or au contact avec...
Mais on ne l'empêchait pas, en fait. On n'avait pas la pollution qu'on connaît aujourd'hui. Hein. L'or ne vieillissait pas anciennement. Aujourd'hui, on a découvert que l'or s'oxyde. L'or n'est pas imputréfiable, ce qui n'était pas le cas anciennement. Jusqu'au 19e siècle, l'or ne bougeait pas. Hein. Donc c'est l'ozone qui oxyde l'or. Et anciennement, on n'avait pas...
Donc le fil d'or était utilisé et hors micro, on parlait justement des différents reflets que donne l'or ou l'argent en fonction de la manière dont le fil est passé.
Oui, l'effet coloré est parfois donné uniquement par la forme ou les pliures du métal ou les successions d'entrecroisement des fils et absolument pas par des teintures différentes. Donc ils avaient déjà conscience anciennement des pouvoirs couvrants et des pouvoirs optiques de la lumière et des limites de l'œil humain en fait. Et des fois on a une seule teinte sur tout un ouvrage et la différence de couleur est simplement donnée par le tissage. Donc ça c'est le propre par exemple des damas où on a le dessin qui est donné par des entrecroisements un fil sur l'endroit, un fil sur l'envers successivement, donc pour le taffetas, et puis on va donner les dessins avec un entrecroisement plus irrégulier satin en sautant des fils sur l'envers, l'endroit, enfin c'est toute une technique, c'est difficile à expliquer en peu de mots en fait.
Oui. C'était mise en œuvre par les brodeurs.
Voilà. Et sur un damas, c'est uniquement, on a l'impression de voir des zones brillantes, plus claires, plus foncées. C'est le même fil, la même couleur de fil. Et c'est uniquement les successions d'entrecroisements qui sont différentes au cours de l'avancement de la fabrication du tissu qui donnent cet aspect bicolore au textile. Et donc, par le biais, donc, grâce au fil métallique, on obtient des variantes supplémentaires de teintes parce que, par exemple, pour une même lame de métal, suivant qu'elle est enroulée sur un fil rouge ou un fil jaune, quand on le met en ouvrage, quand on le brode, les lames d'or s'ouvrent, on aperçoit le fil de soie en transparence entre les spirales de métal enroulées autour. Et donc, ça donne un aspect un peu rosé, ça rougit l'or. On a l'impression d'avoir un or un peu rouge, alors que c'est toujours le même métal. Mais si on a une soie blanche ou une soie jaune, l'or va être beaucoup plus jaune, ou voire va tirer sur un reflet argenté, blanchâtre. Et donc ça, c'était uniquement par effet visuel. Hein. Vous voyez, avec très peu de moyens, trois fils, rouge ou jaune ou blanc, et on arrive à peut-être une vingtaine de tons différents d'or
Et parfois, les fils sont trop épais pour être passés sous le tissu. Et il y a donc d'autres techniques pour faire des applications.
Alors, par économie, et c'est surtout par économie de métal, en fait, et pour utiliser le pouvoir couvrant du métal, on ne passait pas les fils sur l'envers du tissu, donc on les couchait. On appelle ça, on les couchait par des points transversaux pour les rattacher au support. Et donc, ça permettait évidemment d'économiser 50% du fil, puisqu'on avait toute la moitié de fil qui était sur le revers. Des textiles, si on brode à l'aiguille en traversant le tissu, qu'on économise, on économise tout le revers.
Bah peut-être dans certaines chasubles réversibles, on pouvait admirer la finesse des brodeurs qui reproduisaient peut-être un dessin de l'autre côté sur
alors
l'autre
ça
fond.
C'est très très rare. On a des ornements qu'on appelle sans endroit, sans envers, où on avait le fil qui transperçait donc le tissu, et donc on avait un motif qui se répondait face à face, enfin ou dos à dos comme vous voulez, sur l'endroit et le revers au même endroit, mais ça c'est très très rare. Et 17e siècle, 19e siècle, on en trouve quelques exemples. On en a de conservés nous en Eure-et-Loir dans l'église de Gilles, on en a un conservé aussi à la cathédrale de Chartres. Mais c'est très très rare, très très rare.
Donc, qu'est-ce qu'on trouve effectivement dans le vestiaire sacré, dans la cathédrale de Chartres, des époques passées?
Alors, on a surtout des broderies du XVIIe siècle, de très très belles broderies du XVIIe siècle, qui ont été donc brodées d'après des modèles soit de la fin du XVIe siècle. Souvent, c'est des modèles de peinture, de gravure, qui sont postérieurs au Concile de Trente, parce que le Concile de Trente donc a
renouvelé tout
le langage et on avait donc des scènes. Pour que ça soit compréhensible de tout le monde, on a codifié, on a dit, bon, on peut illustrer ceci, cela, mais pas ça, parce que c'est un saint qu'on connaît pas dans telle région, alors faut pas l'utiliser. Des choses comme ça. Donc on a des codes qui vont, des gros ouvrages qui vont être écrits par des prêtres, par des moines, sur les illustrations possibles. Alors, vous savez, c'est des livres de plusieurs milliers de pages. La gamme n'est pas restreinte des illustrations. Et donc, le XVIIe siècle va mettre en broderie tous ces modèles et toutes ces prescriptions du XVIe siècle, essentiellement. Au XIXe siècle, on va le faire par le biais du brochage, essentiellement. C'est pour ça...
Quelle est cette technique du brochage?
Alors, le brochage, en fait, c'est ce n'est plus du tout un ouvrage à l'aiguille. Ça se situe donc sur un métier à tisser. On change de corporation. Donc, on a le tissu qui est tissé avec une nappe de fil, longitudinale et transversale. Et puis, le brochage, on va rajouter une épaisseur de jeté de fil transversale pour créer un motif sur le fond du tissu.
Nous voilà malheureusement à la fin de notre passionnante émission. Il va falloir que vous reveniez au studio. Merci beaucoup Hugues Pasquier de nous avoir parlé des brodeurs de l'église et l'église dans le diocèse de Chartres, le vestiaire sacré. Et nous terminerons notre émission aujourd'hui avec le Miserere d'Allegri. Au revoir chers auditeurs, merci à la technique, à bientôt.